trouvailles. Et de la même manière qu'elles ne s'étaient pas quittées de leur vivant après leur rendez-vous à l'âge de 13 et 14 ans, elles ne vont désormais plus se quitter de leur nuit. Plusieurs fois par semaine dans les premiers temps. Une amitié intense se poursuit aussi naturellement et simplement que cela dans les rêves. Vous vous racontiez quoi? Tout ce qu'on ressentait l'une pour l'autre. Je pense qu'on avait une relation d'amitié unique. Quel est votre sentiment sur la nature de ces rêves? Ils étaient réels. Je la voyais vraiment. Elle me retrouvait. C'était elle. Ce n'était pas mon imagination. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de cela? Ce que je ressentais. Et puis, les contacts physiques que nous avions. On se prenait dans les bras, on se touchait, on se parlait. C'était, oui, je n'ai aucun doute là-dessus, c'était vraiment elle. Est-ce que la nature de vos relations a évolué au cours de ses rêves avant sa mort et après? Parliez-vous des mêmes choses? Oui. Deux copines qui se retrouvent, en somme. C'est ça. Elle me racontait un peu ce qu'elle vivait. Mais c'est drôle, parce que les souvenirs de nos échanges se sont un peu occultés avec le temps. Elle me racontait ce qu'elle vivait, et je me souviens que ce n'était que du bonheur. Il n'y avait aucune zone d'ombre. Elle était dans un bien-être total, la lumière. À chaque rêve, je la rejoignais dans un endroit très lumineux. Malgré sa mort, on avait encore beaucoup de choses à se dire. Dans ces premières années qui suivent le décès de Manon, Sarah s'inspire de son amie pour faire face à ses propres peurs. Manon avait toujours vécu dans l'extrême, ne reculant jamais, expérimentant tout ce qui lui était proposé. Alors, dans une sorte de mimétisme, Sarah entreprend de faire les mêmes choses. Ne reculer devant rien, se confronter à ses craintes, tout à fond. Parce que désormais, elle se sent accompagnée. J'étais porté par sa force. Ça m'a énormément aidé à dépasser certaines peurs. Dès que j'en avais une, mon défi était d'y faire face. Les rêves de Sarah vont s'étaler sur des années, constituant une part essentielle de sa vie depuis le départ de Manon en 2005 jusqu'à il y a 3 ans. Au début très fréquent, il s'espace en même temps que Sarah observe Manon se transformer physiquement. Jusqu'à ce rêve ultime où Manon lui apparaît entièrement nue. J'ai fait ce rêve il y a 3 ans. À la fin, Manon m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle allait quitter ce corps. Enfin, je l'ai perçue comme ça, même si elle n'a pas employé ces mots. C'est-à-dire? Le fait qu'elle soit nue. Toute simple, alors que c'était quelqu'un d'un peu grunge dans la vie. Là, elle était vraiment nue. Et elle m'a dit « Ça y est, je pars pour une autre dimension. On ne se reverra plus. » J'ai ressenti une immense tristesse et je lui ai dit « Non, je ne veux pas que tu partes. » Ça a été déchirant. On se disait adieu.
Vous n'avez plus rêvé d'elle ensuite?
Non, pas une fois. Juste 2 ans plus tard, alors que j'étais vraiment à un moment compliqué de ma vie, j'ai ressenti le besoin de l'appeler. Ce soir-là, avant de m'endormir, c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé de venir. Et elle est venue. Dans ce rêve, nous étions à table, et à un moment, elle m'a prise à part pour me demander de ne plus l'appeler. Elle m'a dit que maintenant, elle ne reviendrait plus. Alors on s'est dit au revoir, et à partir de là, j'ai lâché. J'ai accepté qu'elle soit partie.
À quoi attribuez-vous d'avoir pu rester en connexion avec Manon toutes ces années?
Peut-être le fait que j'y croie rend la chose possible. Je ne sais pas. Mais je sens qu'à partir du moment où l'on croit, les choses viennent à soi. C'est pour ça que j'ai toujours été certaine que c'était elle, et non mon imagination. Chapitre 36. La surprise. Marie et sa grand-mère Hélène sont très liées.
Unies par une vraie connexion autour de la spiritualité, elles partagent une complicité de chaque instant. Comme une relation très ancienne, toutes deux ont en outre la même sensibilité particulière. À 90 ans, Hélène est quelqu'un de très important pour sa petite fille, un pilier, un de ses soutiens fondamentaux. Les derniers instants de la vie d'Hélène, Marie est très présente. Un après-midi, alors qu'Hélène traversait jusque-là de longues périodes d'inconscience, elle se réveille au moment où Marie arrive de Paris. La vieille dame est en forme, hyperactive, demande à boire, à manger. Marie se remémore avec émotion ce jour-là, le dernier où elle a pu voir sa grand-mère consciente. Sa mère, présente elle aussi, a une très belle relation avec Hélène, mais peut-être pas cette connexion spirituelle si singulière que la vieille dame entretient avec sa petite fille. Les trois femmes partagent ce temps privilégié. Marie et sa mère, de chaque côté du lit d'Hélène, à lui tenir la main. De longues heures simples pour un ultime adieu et une volée de recommandations très pragmatiques. « Elle a commencé à parler de sa mort, » raconte Marie, « disant qu'elle viendrait me voir. Je viendrai, je serai là. On pourra communiquer d'une façon ou d'une autre. » Dès le lendemain, elle est retombée dans le coma et elle est partie 4 jours après. Plusieurs mois passent sans que Marie remarque la moindre manifestation. Très ouverte sur la question, elle ne doute pas que sa grand-mère est quelque part, mais trouve un peu étrange de n'avoir capté aucun signe de sa part. Et puis, environ 6 mois après son départ, Marie fait un rêve vraiment singulier. Un de ces rêves extrêmement construits et qui vous marquent. Marie se trouve dans une voiture. Elle ignore où. Alors qu'elle est au volant, elle jette un œil dans le rétro et aperçoit sa grand-mère assise sur la banquette arrière. La circulation l'empêche de s'arrêter, mais après une première réaction de stupeur, la discussion s'engage. Un œil sur la route, l'autre sur cette apparition qui l'emplit de bonheur. « Étiez-vous consciente de rêver ?»« Non. En revanche, dans mon rêve, je sais qu'elle est morte et que j'attendais un signe d'elle. Je pleure de joie, de bonheur, elle est là, elle est belle, rayonnante, très calme. » Marie assaille sa grand-mère de questions. « Comment ça va? Est-ce que tu es bien? Es-tu heureuse? À quoi ça ressemble là où tu es ?» Hélène répond à tout. « Elle me dit que c'est super. » Qu'elle est hyper heureuse, que tout va bien, qu'elle passe de bons moments, puis m'informe avoir retrouvé mon grand-père, qui n'a a priori pas beaucoup changé de caractère. Sans entrer dans trop de détails, elle rassure Marie, et sa petite fille en vient à lui demander si sa visite est motivée par une raison particulière. Elle m'a répondu, « Je voulais te dire 3 choses. La première est que je vais bien, et j'aimerais que tu le racontes à ta mère. Je suis là et je reste avec vous. Je ne souffre plus et je suis heureuse. La deuxième chose, tu vas avoir une surprise. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais elle s'est refusée à me le révéler. Ah non, si je te le dis, ce n'est plus une surprise. Tu vas voir, m'a-t-elle rétorqué. Et en 3, j'aimerais que tu dises à ta mère que je l'ai vue danser hier et que je l'ai trouvée très belle. Ça m'a fait plaisir de la voir si heureuse. »
Marie se réveille en larmes, des larmes de joie, de gratitude.
En ce lundi matin, alors que la journée commence à peine, sa mère l'appelle, ce qui est assez inhabituel à cette heure. Marie est encore tout imprégnée de l'énergie si particulière de son rêve. Avant même que sa mère lui dise un mot, elle s'exclame « C'est quand même fou que tu appelles, parce que je viens juste de rêver de mamie pour la première fois, et tu étais dans le rêve. »
Marie prend le temps de lui raconter.
Quand elle en vient au 3e point, sa mère reste silencieuse quelques secondes au bout du fil, puis, d'une voix émue, avoue à sa fille qu'elle est effectivement allée danser la veille, dimanche après-midi, ce qui pour elle était totalement improbable. Ma mère a trouvé cela absolument incroyable. Elle en a été très touchée. Et puis, elle en vient à la raison de son appel. « Il faut impérativement, me dit-elle, que je me rende le jour même chez ma grand-mère à Dijon, parce que c'est le dernier jour où l'on peut changer les francs en euros à la Banque de France. Elle l'a entendu à la radio. Et chez ma grand-mère, dans un placard, elle vient de se rappeler qu'il y a un endroit secret où elle gardait des francs. Ma mère conclut en disant que mamie aurait aimé que cet argent me revienne. Marie file à la gare de Lyon et attrape un train pour Dijon. Rien n'a bougé dans la maison. Personne n'a commencé à trier les affaires. Marie pénètre dans la chambre si silencieuse de sa grand-mère. Ce voyage impromptu, coloré du rêve de l'aube, en devient presque sacré. Beaucoup d'émotions. Son lit, le placard, l'endroit secret, les francs. L'équivalent d'un peu moins de 1 000 euros une fois que Marie sera allée les changer. Alors qu'elle fait la queue au guichet de la Banque de France, Marie repense au rêve, revoit le petit sourire malicieux de sa grand-mère le matin même et comprend. La surprise. En sortant de la banque, elle rappelle sa mère. Les deux femmes sont émues, et Hélène n'est sans doute pas loin. Chapitre 37. La consolation des âmes. J'ai eu la chance de rencontrer la thérapeute énergéticienne Agnès Stévenin voici quelques années. Agnès est une guérisseuse de l'âme. Elle intervient sur le corps, mais dans sa pratique, voyant en définitive cet organisme de chair davantage comme la manifestation matérielle d'un être plus subtil, elle intervient à cet autre niveau pour prendre soin des symptômes observables. Dire qu'elle intervient est en réalité en partie inexact. Ses mains, son corps, servent plus de canal, d'instrument, de déclencheur d'un mécanisme de guérison dont bien des paramètres lui échappent, à elle comme à nous. Voici le cœur du mystère des guérisseurs. Ils sont les acteurs souvent inconscients de force et d'énergie qu'ils accueillent et laissent passer en eux sans décider nécessairement des gestes et des actes qu'ils pratiquent. Espace du pur lâcher-prise, de l'humilité et de l'intuition. Agnès a vu se révéler ses dispositions assez tardivement. Elle reçoit aujourd'hui dans son petit cabinet niché au fond d'une cour de l'Ouest parisien avec toujours la même incroyable douceur. La scène s'écoule à quelques pas. Ce qui caractérise Agnès est son incroyable compréhension de ce qui se joue avec ses patients. Elle est d'une lucidité qui m'a toujours impressionné quant à la nature et au périmètre de son rôle, modeste, humble et pourtant étrangement essentiel. Il suffit d'être sous ses mains pour mesurer combien un être humain peut prendre soin d'un autre. Dans son dernier livre, « Splendeur des âmes blessées », elle raconte son parcours, l'éclosion de ses perceptions, sa conception du soin et sa rencontre très jeune, trop jeune, avec la mort. « J'ai perdu ma petite fille de 2 ans, Rose, alors que j'étais une maman de pas encore 24 ans. Aujourd'hui, je suis très en paix avec la mort. Je ne l'attends pas avec impatience, même si je considère que mourir sera comme rentrer à la maison. Mais quand je repense à cette époque, je me dis que j'étais super jeune pour vivre un truc pareil. »
C'était un accident ?
Oui, elle s'est noyée. Ce fut l'enfer sur terre. Je n'étais pas préparé. J'avais rompu avec ma religion. Aussi, n'ai-je eu aucun réconfort spirituel. Alors l'arrachement, le noir de la mort, le néant, l'absence, la douleur, je connais par cœur. Et puis, au fil du temps, il y a l'apaisement. Des années ont été nécessaires. Désormais, moi qui ai eu la chance d'être mère à plusieurs reprises, de donner la vie, mais aussi d'accompagner des gens dans leur dernier souffle, j'ai compris que naissance et mort sont un même moment sacré, un temps où se déploie une force spirituelle incroyable. En découvrant qu'Agnès voit l'âme d'une manière assez similaire à la façon dont Sylvie Ouellet en parle, j'ai envie de la questionner sur sa vision de la vie après la vie, et du voyage que l'âme entame sitôt le dernier souffle expiré. Pour Agnès, comme pour Sylvie, l'âme est une partie supérieure de nous-mêmes, une dimension cachée derrière notre conscience ordinaire, notre personne, une sorte d'étape intermédiaire entre notre essence divine et l'être incarné que nous sommes actuellement. À l'image de ce qui est dit dans plusieurs traditions spirituelles, l'âme voit la nature réelle des phénomènes. Malgré cela, Agnès observe que cette âme peut être blessée par certaines expériences vécues dans l'existence. Cette interface entre le divin dont nous sommes une émanation et notre personnalité, bien que de nature non matérielle, est atteinte par les aléas émotionnels de notre incarnation. C'est à ce niveau des blessures de l'âme qu'elle travaille à apporter de l'apaisement, de la douceur. Comme lors de ma discussion avec Sylvie Ouellet, je réinterroge le paradoxe qu'il y a à porter en nous une sorte de super-soi éternel, capable de comprendre la nature profonde des circonvolutions de notre vie, tout en étant incapable d'y accéder de manière consciente. À quel moment est-on en rapport avec cette âme qui nous constitue? Mais nous le sommes à chaque instant. Oui, mais pas consciemment. Peut-être faudrait-il pour cela savoir parfois redevenir un peu un enfant, réouvrir ses qualités de cœur, sa spontanéité, sa curiosité, être empathique, généreux. Alors on vit dans la vibration de l'âme et l'on peut la ressentir très naturellement. Ce n'est pas une question de niveau de développement spirituel, mais d'ouverture du cœur. Se mettre en résonance avec la dimension de l'amour, ouvrir son cœur, oser y croire, oui, comme un enfant. Cela est si absent de notre éducation. Serait-il en définitive si simple de se reconnecter à soi-même et de pouvoir capter avec naturel les autres mondes? Assis sur le petit canapé de son cabinet, dans la tranquille lumière d'une fin d'après-midi, je regarde Agnès, qui me dit combien elle aimerait que l'on ait moins peur de la mort. Ce n'est pas une formule en l'air dans sa bouche. Rose est présente. Nous ne sommes pas dans la légèreté d'une abstraite discussion philosophique. Agnès reçoit des patients quotidiennement et observe ces blessures spirituelles qui déforment nos corps, ces disharmonies immatérielles qui deviennent des maladies. En réalité, la matière n'est rien. Le monde que nous observons et dans lequel nous vivons n'est qu'un simple reflet, l'éclat solide de la conscience immatérielle qui lui donne vie. Nos corps sont les cristallisations éphémères d'esprits immortels. Agnès constate chaque jour la réalité tangible du monde des esprits et de cette vie qui éclate tellement au-delà de notre existence si temporelle sur cette terre. L'homme est un être spirituel, comme c'est évident. Et nous, avons peur. Et cette peur engendre regret, culpabilité et confusion. Elle est opposée à la vie. Ce que nous appelons mort est un simple changement d'état et, bien souvent, me confirme-t-elle, c'est l'âme qui décide de l'arrêt des aiguilles de la pendule. Quand l'âme détermine le moment, c'est que l'on a fait ce qu'on devait faire, que ce soit à 90 ans ou à 2 ans. Cela n'enlève rien à l'horreur vécue par ceux qui restent, mais ceux qui restent ne sont pas celui qui part. Lui rentre à la maison se ressourcer. Il y a, bien sûr, ce problème des âmes errantes, mais c'est minime en définitive et toujours transitoire. Sylvie Ouellet affirme également que l'âme décide du moment et que le timing est préparé longtemps à l'avance. Tu confirmes? Oui. L'âme est maîtresse du temps. Cette sorte de prescience que peuvent avoir les gens de leur mort prochaine m'interpelle. Dans l'illusion dont je ne parviens pas tout le temps à me défaire, j'y vois une remise en cause de notre libre arbitre. J'ai pourtant recueilli de nombreux témoignages abondants dans ce sens. J'ai même vécu cela avec mon père, comme je m'en suis ouvert plus haut. Des gens qui, inexplicablement en apparence, rangent leurs papiers, trient leurs affaires, semblent tout préparer alors que rien ne laisse supposer leur décès proche, ou même en parlent et l'annoncent. Agnès entend souvent ce genre d'histoire. Ton père l'a verbalisé, ce qui est plus rare. Mais bien souvent, on peut observer cette prémonition inconsciente dans les comportements des gens quelque temps avant leur mort. Je suis convaincu que pour chacun d'entre nous, la nuit, le sommeil et les rêves sont un lieu de voyage et de rencontre avec d'autres dimensions, avec nos guides. Aussi est-il très probable que ton père, au cours de ses rêves, ait été informé qu'il lui restait tant de temps à vivre. En rêve, mais de manière inconsciente. Ce n'est pas inconscient puisqu'il te l'a dit. Lui ne savait pas d'où l'info venait, ni même pourquoi il le savait. Mais voilà, il le savait. Cela veut-il dire que la mort est déterminée à l'avance? Est-ce que, par exemple, le départ de ta petite fille était déterminé, selon toi? Je pense que oui. Sauf que je ne crois pas qu'il faille le voir comme un déterminisme absolu, tel jour, telle heure. Ce doit être plus large, plus souple. En même temps, pour prendre le cas de ma fille, s'il n'y avait pas eu cet accident ce jour-là, il y en aurait peut-être eu un autre la semaine d'après, parce qu'on vient passer ici un certain temps de vie.
Une durée fixée à l'avance, tu veux dire?
Ce qui régit notre durée de vie est notre capacité à apprendre nos leçons. La mort d'un tas de gens apparaît comme une injustice totale à leur entourage. Mais peut-être partent-ils parce qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire, appris ce qu'ils avaient à apprendre dans cette existence, et que le job est fini. Ils passent dans la classe supérieure en quelque sorte. Dans les cas de mort d'enfants jeunes, peut-être étaient-ils morts prématurément dans leur vie précédente et devaient-ils juste revenir pour accomplir un temps court dans cette vie-là? Les cas de suicide, par exemple, ceux qui suppriment volontairement leur vie, reviennent-ils faire quelques années?
Sylvie Ouellet exprime la même chose.
Ça ne m'étonne pas.
Pour Agnès également, le suicide n'est pas une faute qui déclencherait un châtiment, mais simplement une perte de temps.
Cet acte imposerait de recommencer comme si l'on avait laissé une partie en cours et qu'il fallait la reprendre pour achever la mission. Acquérir tout ce qui devait l'être, tout ce que l'âme avait prévu d'apprendre. Ainsi, le suicide ne serait pas une faute, mais une erreur. Parce que la vie nous est confiée, plutôt prêtée que donnée d'ailleurs, et qu'il ne nous appartient pas de l'interrompre. Tu as évoqué le cas des gens coincés après leur mort. Tu as parlé d'âmes errantes. De l'autre côté, ta pensée devient éminemment créatrice. Tu projettes tes croyances, tes pensées. Aussi, au début, pour certaines personnes, cela peut-il être assez confus. Il faut comprendre qu'on est mort. Mais ce temps est transitoire. Et dès qu'elles appellent à l'aide, les âmes qui sont perdues voient leur guide et d'autres êtres venir les chercher. C'est immédiat.
Il peut être dur pour des parents en deuil d'imaginer leur enfant perdu, non?
Mais déjà, on ne sait pas quelle était l'ouverture d'âme de l'enfant. Alors oui, quelquefois, ils peuvent être perdus ou tarder à comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas du tout systématique. Et quand bien même cela fait aussi partie de leur chemin d'évolution, de leur chemin d'âme, il faut essayer de parvenir à se dire que nos enfants ne nous appartiennent pas. Avant d'être mon enfant, c'est une âme, et elle doit suivre son chemin. Elle peut être perdue un temps, mais ce ne sera pas éternel. Nous pouvons les aider, mais il faut savoir que d'autres vont aussi leur venir en aide.
La réflexion d'Agnès me remet en mémoire un souvenir particulier. Après la publication du test,
J'ai reçu de très nombreux courriers, dont plusieurs provenaient de personnes ayant perdu des proches dans les différents attentats ayant touché la France ces dernières années. Ce fut le cas d'Héloïse, dont le témoignage se trouve en début de cet ouvrage, mais également des parents de Cédric, un jeune homme de 27 ans, fauché à la terrasse de la Belle Équipe le soir du 13 novembre 2015. Comme Héloïse, les parents de Cédric m'ont écrit pour me confier avoir trouvé beaucoup d'espoir à la lecture du test, mais en même temps nourrir des inquiétudes sur le cheminement de leur fils après sa mort dans des circonstances si violentes. Alors que je commençais à leur répondre, j'ai subitement été envahi par une image dont la force et l'évidence m'ont profondément ému. Voici ce que je leur ai écrit, poussé par une étrange inspiration. J'ai le sentiment tout à fait personnel, mais très présent en moi, que, quelles que soient les circonstances de notre mort, de nombreux êtres bienveillants sont présents au moment du passage pour guider et accueillir les nouveaux venus dans leur voyage dans l'au-delà. Pardonnez-moi de prendre la liberté d'écrire cela, mais je suis convaincu que ce soir du 13 novembre, un très très grand nombre d'êtres de lumière aimants